Un roi représentant, contrôlant les énergies, transformateur d'énergie. Il existe des êtres qui reçoivent d'en haut de l'énergie d'une autre dimension et qui la dispensent et la répandent dans le milieu ambiant et sur les êtres qui s'y trouvent après l'avoir transformé et adapté à leur capacité d'absorption. Ils abaissent le taux vibratoire des énergies pour les rendre assimilables. Ces êtres en mission existent vraiment et tous viendront à le reconnaître un jour. Il y a plus de 75 000 ans, un grand roi agissait ainsi en Atlantide. Il fournissait une énergie spéciale aux végétaux et à la terre pour procurer à son peuple l'abondance alimentaire qui lui était nécessaire et vitale. Il s'occupait aussi des activités de spiritualisation du peuple et de l'aspect spirituel qui y correspondait. Il avait trois enfants qui agissaient dans des temples. La communication avec les hauts centres énergétiques de la planète, comme Shambhala, permettait les échanges d'énergie entre les humains et les êtres cosmiques qui agissent sur la Terre pour la transformer, elle et ses habitants. Aujourd'hui, l'humanité est peu au courant de tels besoins d'échange d'énergie entre le haut et le bas pour la bonne marche et pour l'évolution du monde sur les plans matériels, émotionnels et spirituels. Les gens ne savent pas comment fonctionne la nature, d'où viennent les pensées utilisées par eux dans toutes les circonstances de la vie, comment se font vraiment les grands changements de pensée chez des groupes d'humains plus ou moins nombreux, comment les végétaux fabriquent la nourriture comestible en relation avec le sol, etc. Elle s'imagine que tout se fait mécaniquement par les gènes. Elle évacue complètement l'aspect vie qui transcende la forme. Elle accepte l'existence de la vie, mais elle refuse son mécanisme d'application métaphysique. L'utilité des pratiques religieuses n'est pas totalement comprise en ce qui concerne la santé, la richesse et le bonheur, l'harmonie relationnelle. L'aspect énergétique de ces pratiques n'est habituellement pas perçu, car peu de gens ont leur troisième œil ouvert. Cela s'appelle de la magie blanche. D. Chute dans l'inharmonie, la violence et la tromperie. Tout allait bien, mais les gens ne se contentèrent pas de ce bonheur relatif. Alors, certains éléments de la population entrèrent en dissonance, puis en discorde. Certains firent un mauvais usage de la connaissance et la magie noire s'infiltra en Atlantide. L'inharmonie prit la place de la cohésion et de la tranquillité. Avec le temps apparurent la tromperie, la fourberie et la violence, puis la destruction. L'Atlantide fut ébranlée une première fois et sa forme se transforma. Le grand roi et sa famille quittèrent le plan physique et la nature devint moins productive. Le peuple s'enfonça dans la matérialité, matérialisation de son être extérieur. C'est ce qui arrive lorsque les gens se débranchent, se détournent de la source d'énergie spirituelle et de ses dispensateurs. 4. Il y a environ 18 à 25 000 ans. Faisons maintenant un saut en Amérique centrale et voyons la continuité d'action de l'ancien grand roi de l'Atlantide et de ses enfants. Dieu n'a jamais cessé d'aider les peuples de la terre par ses intermédiaires. A. Chez les Incas. Il y a environ 20 000 ans, un peuple prospérait en Amérique centrale sous la gouverne d'un roi qui régissait les activités sociales et économiques, incluant l'agriculture, les mines et la spiritualité, comme l'indique Godfrey Waking dans ses livres. Ce roi Inca avait une grande réceptivité spirituelle et était ouvert à la connaissance ésotérique. Il était à sa dernière incarnation. C'est pourquoi les trois enfants de l'ancien grand roi Atlante purent s'incarner dans la famille de ce roi pour rehausser la qualité de vie de ce peuple et pour lui enseigner de nouvelles techniques minières plus performantes pour améliorer l'agriculture, entre autres. les cultures céréalières et la supervision gouvernementale, et finalement pour apporter à ce peuple des connaissances spirituelles supplémentaires. B. Enseignement. 1. Agriculture. Quand ces enfants eurent atteint un certain âge, ils purent s'occuper des affaires de leur père et introduire de nouvelles cultures, de nouvelles céréales, avec de nouveaux procédés, et tous en profitèrent grandement. Les Incas furent surpris par les connaissances et l'ingéniosité de leurs gouvernants. Les trois enfants du roi Inca contactaient consciemment leur ancien père et recevaient de lui un enseignement spécial ainsi que des connaissances pour développer la science de l'époque. 2. Mines. Un de ses enfants se spécialisa dans le travail des mines qu'il perfectionna grandement, apportant ainsi richesse et prospérité dans le royaume. L'or s'y trouvait en abondance. La façon d'orienter les galeries et d'acheminer le minerai rendait plus prolifiques les résultats. Il devint facile de trouver des gisements. Des procédés métaphysiques étaient utilisés par l'enfant du roi qui s'occupait de ces choses. 3. Gouverne de population, de pays et administration. La gouverne de cette royauté s'établissait au-delà de ce pays pour englober des territoires au sud, au nord de l'Amérique du Sud et au nord vers le Mexique. Ce n'était pas un contrôle par la force, mais à cause des besoins des populations concernées et de la compétence de ce régime. L'administration revenait à l'aîné qui avait étudié en conséquence et qui se débrouillait fort bien dans ce domaine. Le peuple en était heureux. L'organisation sociale était très élaborée, même en ces temps soi-disant reculés. L'activité humaine s'harmonisait avec celle de la nature et l'environnement restait en équilibre stable. Même les pays éloignés bénéficiaient de leur extraordinaire activité. 4. Spiritualisation. Sous ce roi, la connaissance et la compréhension spirituelle fit un bond. Le roi Inca ascensionna grâce à la venue de l'ancien grand roi Atlante qui se matérialisa à partir de la substance universelle pour lui communiquer directement la technique de fusion avec sa présence divine, mettant ainsi fin à sa série d'incarnations dans le règne humain. Cet enseignement ne fut pas donné à tout le peuple, mais ces gens reçurent certaines précisions sur Dieu dans l'univers. Ainsi, chacun pouvait adorer le soleil derrière le soleil. Les trois enfants reçurent aussi cet enseignement. Ils eurent l'occasion d'améliorer les connaissances des Incas après le départ du roi, sans tout leur dire cependant. Les échanges entre le haut et le bas permirent à ce peuple de prospérer dans la paix et l'harmonie durant de nombreuses décennies. C. Dissémination des gens et des connaissances acquises. Les gens de cette époque circulaient dans les trois Amériques pour des raisons de commerce. Ainsi, les connaissances apportées par cette famille royale se semèrent un peu partout sur tout le continent. Plus tard, d'autres groupes empruntèrent les connaissances des Incas et donnèrent naissance à des civilisations extraordinaires. On en a des échos fabuleux jusqu'à notre époque. La richesse nous étonne encore. L'Eldorado résonne toujours dans le mental populaire, même après de nombreux millénaires. Des destructions et dissémination. Les trois enfants spéciaux ne pouvaient rester sur Terre indéfiniment. Aussi, le peuple se refroidit avec le temps et oublia l'intensité vibratoire qu'il avait eu le privilège de vivre. À cette époque, l'Atlantide subit une deuxième vague de destruction, avec des répercussions dans les contrées périphériques. Ces bouleversements aidèrent à la dissémination des connaissances inca et de sa spiritualité.